Une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On envoie.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what ?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas Gilsoul, bonjour.
Bonjour.
Donc, tu es architecte, paysagiste et professeur, on peut dire ça, je pense.
On peut dire ça.
Tu es engagé pour le vivant, donc que tu lis notamment à l'aménagement du territoire en ville. Mais finalement, tu racontes aussi les relations avec ces animaux des villes dans tes livres. Aujourd'hui, tu es à Grenoble à l'occasion d'une conférence que tu as donnée un peu plus tôt dans la journée pour la Maison des sciences humaines à Saint-Martin-d'Hères. Mais pour commencer, je voulais te demander comment est née chez toi cette fascination un petit peu pour les animaux de la ville.
Alors, comment c'est né? Je pense que j'ai toujours été très curieux de ces autres formes de vie, mais ça pouvait être aussi bien une plante qu'un animal. L'avantage de l'animal, c'est que tu as un petit peu plus de communication avec, en tout cas d'interaction. Et je me souviens quand j'étais petit, voilà, mes parents m'amenaient dans les alpages et me posaient dans l'herbe et je regardais les orchidées, les centaurées et puis les bourdons qui tournent autour, les papillons, etc. Donc tout ça m'a toujours beaucoup fasciné. Et comme je n'ai ni frère ni sœur, j'ai toujours eu pas mal d'animaux à la maison, alors que j'habitais au cœur de Bruxelles, dans une capitale européenne quand même assez dense. On a un tout petit jardin qui faisait 3 mètres sur 3, mais j'ai grandi avec un lapin, une tortue, une tourterelle et des chiens, beaucoup de chiens. Et voilà, je pense que c'est les chiens qui m'ont appris aussi à être curieux comme ça, parce qu'ils regardent le monde d'une certaine façon.
Tout à fait, c'est vrai que j'ai un chien aussi et il a tout le temps envie de tout savoir, il observe
ouais,
tout.
Ouais, ils observent, c'est vachement bien, c'est intéressant.
Oui, et donc sur ce lien entre les animaux et la ville, naît un petit peu la discipline d'écologie urbaine. Donc je voulais te demander justement qu'est-ce que l'écologie urbaine et qu'est-ce qui la différencie peut-être de l'écologie plus classique qu'on peut avoir dans la pensée collective.
Alors moi je me suis intéressé à ces trucs-là parce que je suis architecte. Et puis après j'ai eu une casquette de paysagiste et puis après j'ai fait un doctorat sur ces trucs là et c'est vrai que je suis pas écologue, ça c'est important de le dire, mais donc je me suis intéressé à la discipline de l'écologie urbaine parce que sur les chantiers j'étais confronté à des questions qui soit me dépassaient complètement, soit que je trouvais traitées de manière assez absurde. Quand on posait un bâtiment, forcément on s'installait dans un milieu vivant et on allait en bouleverser le ruissellement de la pluie, l'habitat de certains insectes ou de certains oiseaux qui étaient déjà en place. Ça n'avait pas l'air d'émouvoir grand monde, mais moi j'étais un peu embêté de venir chez eux et de tout bouleverser. Et donc j'essaie d'en comprendre plus. Et donc d'abord l'écologie, puisque l'écologie c'est la science de l'étude de ce qui se passe entre les choses, entre les êtres, entre les différents écosystèmes et ceux qui les habitent. Et l'écologie urbaine c'est né il y a peut-être 30 ans maintenant, quelque chose comme ça, enfin, ça fait 20 ans que ça commence à être en essor et on en parle de plus en plus. Jusque-là, l'écologie s'intéressait surtout à des milieux qui étaient en dehors des villes. On disait que la ville c'était finalement pas très intéressant en termes de vivant, à part les humains, et que c'était bien plus intéressant d'étudier le littoral, le fond sous-marin, la haute montagne, etc. Et il y a 20-30 ans, on s'est rendu compte que dans la ville, il y avait toute une série de formes de vie qui, en plus, avaient suivi des évolutions différentes. Certains insectes étaient complètement différents en ville que quand ils étaient en dehors de la ville, le pissenlit des villes, le pissenlit des champs, etc. Et ça m'a vachement troublé, cette histoire-là, et donc j'ai essayé de comprendre que le fait que le creuset urbain devienne un accélérateur d'évolution, c'est assez fabuleux, et pour un architecte, c'est finalement, ça met un poids encore en plus sur les épaules. C'est-à-dire qu'on est non seulement responsable du bien-être de ceux qui habitent la ville, humains, mais aussi on est responsable d'actions sur l'environnement à une plus grande échelle. Et donc, s'il y a un levier à avoir sur les problèmes planétaires qu'on a, évidemment, il y en a plein des leviers, mais en tant qu'architecte, travailler sur la ville, là où il y a le plus de monde regroupé dans la planète, ben, c'est probablement un enjeu important. Et donc, voilà, c'est un peu né comme ça.
Ok, trop chouette. Et donc, oui, c'est ce que j'allais dire, tu as un peu anticipé ma prochaine question, mais c'est ce que je me disais, quand on pense biodiversité, on pense souvent grandes forêts qui sont le refuge de nombreuses espèces, et donc on pense que très rarement à la ville. Et pourtant, c'est, je crois, ce que tu dis dans ton livre, il y a plus d'espèces en ville que parfois dans les campagnes.
Alors oui, dans certaines villes, que dans certaines campagnes, voilà. Oui, non, mais c'est vrai, parce que si on prend les campagnes, entre guillemets, alors c'est marrant parce que le mot campagne, c'est un mot qui a été inventé par des citadins. Donc déjà, ça, c'est intéressant, on peut méditer là-dessus. Mais dans certains paysages cultivés, de grands champs, dans lequel on a, par exemple, arraché tous les corridors d'arbustes ou machin qu'il y avait, le bocage, et qu'on a transformé ça en grand territoire de grands champs sous pesticides, bah, évidemment, il y a beaucoup moins de diversité d'espèces que dans certaines villes, surtout depuis 2012, il y a une loi qui est passée, la loi Labbé, qui est une loi qui oblige finalement les municipalités françaises à ne pas utiliser de produits pesticides dans l'entretien des jardins. Et c'est vrai, ça vous le savez bien à Grenoble parce que vous avez trois coups d'avance, mais c'est intéressant parce que ça a permis, en tout cas dans certaines villes, par exemple Paris, ça fait 14 ans qu'ils font ça, Versailles aussi, c'est 16 maintenant, on s'est rendu compte en 16 ans, on peut mesurer l'impact de ce zéro phyto sur le retour de tout un tas de cortèges animaux dans le cœur de ville, que ça aille de la petite abeille solitaire jusqu'au papillon en passant par les oiseaux, etc. Donc oui, les villes sont aussi des creusets d'une biodiversité parfois étonnante.
Et donc justement, tu as dit qu'à Grenoble, on avait trois coups d'avance. Je voulais te demander, toi, quelle était la ville un petit peu modèle en termes de biodiversité et d'urbanisme, on va dire.
Alors ça, c'est compliqué. C'est compliqué, mais je pense que des villes qui ont une ambition, je parlais de Grenoble parce que vraiment, il y a eu une vraie ambition de l'écologie assez forte. En plus, il faut quand même dire que vous êtes entouré de géants. Je parle de ceux qui sont en pierre et donc vous êtes dans un paysage qui est très fort, et c'est vrai que quand on est dans un paysage qui est très fort, on en prend peut-être plus conscience que quand on est au milieu de plein agricole en Beauce où le paysage est très fort mais il est très plat et on est moins confronté à cette force, surtout qu'en plus il est déjà fort découpé. Donc Grenoble, oui, bien sûr. Je trouve que les ambitions de Paris depuis quelques années sont assez louables. On peut dire beaucoup de choses sur la politique d'Hidalgo, mais sincèrement, en termes d'écologie, elle a quand même fait bouger pas mal de choses dans le cœur de Paris, sur des combats qui vont, par exemple, de l'interdiction des voitures sur les berges de Seine jusqu'à la réinvention d'un nouveau PLU de biodiversité. C'est assez formidable. Nantes, depuis des années, est en tête de liste sur les politiques urbaines d'aménagement. Voilà, donc voilà, ça c'est dans les grandes métropoles, je dirais. Et puis il y a parfois des petits villages qui ont des ambitions extraordinaires. Je me souviens d'un village comme ça, donc, malheureusement oublié le nom, mais dans un des bouquins, dans les Pyrénées, où ils avaient une véritable ambition d'un retour à la terre et à l'intelligence de cette écologie naturelle. Ça, voilà, ça me fascine, des trucs comme ça.
Tu verras, c'est ta chance. Les gens viennent ici et tout recommence. Au milieu des bruits de la ville, toi t'arrives toute timide, perdu dans le décor, le cœur en l'air et les yeux qui dévorent toutes les saveurs de la ville qui t'appelaient entre ses lignes. Solide et sans pitié, les passants s'amassaient dans ses allées, s'élançant comme une rivière, essaie de rejoindre son cœur. Tu te lances dans
petit matin, comme un marin sur une plage, déposé là par une vague. Tu entends l'avalanche d'une âme et d'âme affairée qui s'élance, en faisant vibrer tout ton corps, pourvu que cette fois tu t'en sortes. Tu te lances d'un
on parle bah, un petit peu d'animaux sauvages comme ça et de villes. Enfin, moi, la première chose qui m'est venue, c'est de me dire que c'est pas un environnement qui est adapté pour ces animaux. Et donc, puis, je voulais demander comment ces animaux ils s'adaptent. Est-ce qu'il y a un petit peu une domestication entre guillemets des animaux, ou est-ce que c'est aussi la ville qui doit se reconstruire?
Alors, il y a plein de niveaux de réponse. Je dirais que la première chose, et je pense que c'est important de le dire, c'est que quand on parle d'animal sauvage, on a tout de suite en tête un loup, un renard ou un tigre ou un éléphant. Une mouche, c'est un animal sauvage. Une abeille, si elle n'est pas domestique, c'est un animal sauvage. Une guêpe, c'est un animal sauvage, un papillon, c'est un animal sauvage. Donc en fait, les villes sont pleines d'animaux sauvages, et parmi ces animaux sauvages, il y en a qui sont plus grands, il y en a qui sont plus petits, et il y en a qui se sont adaptés à nos curieux écosystèmes urbains, qui sont des mosaïques d'écosystèmes, c'est-à-dire qu'un oiseau peut passer d'une micro-prairie à une micro-forêt, à une micro-machin. Alors, c'est jamais une forêt, c'est jamais une prairie, c'est des espèces de taches, de trucs, mais qui pourrait faire penser avoir des similitudes avec ces mêmes milieux à plus grande échelle, mais c'est leur proximité qui tout d'un coup vont créer des métamorphoses dans soit le comportement, soit le corps, la physiologie de ces animaux. Et là, ce sont les plus opportunistes qui vont évoluer, qui vont s'adapter. Donc le coyote dont je parlais tout à l'heure à Chicago va avoir un terrain de chasse plus petit, il va en ville, il va sortir à d'autres horaires que ce qu'il fait quand il est dans des paysages moins urbanisés, il va même apprendre à regarder du bon côté de la rue avant de traverser pour pas se faire écraser. Donc ils vont évoluer dans leur comportement. Le hérisson aussi, le hérisson des villes, en France, a une meilleure santé que le hérisson de nos campagnes, parce qu'il ne mange pas les boulettes de pesticides et compagnie, parce qu'il ne se fait pas écraser sur les nationales, parce que, etc. Donc il est plus protégé. Voilà. Donc il y a des évolutions réelles qu'on peut mesurer, mais pour une espèce qui arrive à évoluer dans la ville, il y en a 30 ou 40 ou 100 qui restent sur le carreau. Ça, c'est quand même important à comprendre. La ville, c'est quand même pas le truc des bisounours non plus. Mais même en ville, il y a une multitude d'animaux intéressants et sur lesquels, quand on agit sur la ville en termes d'aménagement ou d'architecture, ce sont des choses à prendre en compte.
Oui, et donc justement, comment lier architecture et biodiversité dans ce cadre-là?
Alors j'en suis arrivé, alors c'est marrant, du coup j'ai des vrais questionnements avec mes étudiants là-dessus, parce que moi j'en étais arrivé à me dire je construis plus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à vraiment bien analyser, comprendre, etc., les relations entre toutes ces choses, je leur dis toujours qu'un architecte, quand vous faites une architecture, c'est comme quand vous posez une pierre dans un ruisseau. C'est-à-dire qu'il va y avoir des courants qui vont être déformés, il va y avoir de la sédimentation d'un côté, de l'érosion de l'autre. La sédimentation, au cours du temps, va finir par former une île. Sur cette île, il y a des oiseaux qui vont déposer des graines, ou le vent, il y a des premières herbes qui vont pousser, puis ça va apparaître des ligneux, et puis ça va attirer des papillons, puis ça va attirer des oiseaux, puis, etc. Mais il y a la pierre d'abord, et la pierre, c'est l'archi qui la pose. Et donc, à partir du moment où on comprend ça, c'est difficile de se dire qu'on va encore construire, parce que... quelle que soit la chose qu'on va faire, on va avoir un impact sur toute une chaîne de commandement derrière. Alors, ce n'est pas possible parce qu'on est de plus en plus nombreux, nous, sur la planète, et qu'on ne peut pas prendre cette position en disant « Oui, moi, je suis bien dans mes baskets, je ne construis pas, je ne pollue pas la planète. » Pas possible, c'est notre rôle d'architecte de construire pour nous faire, nous, des refuges, parce qu'on est quand même la seule espèce animale à avoir oublié comment on construit sa maison. Donc, on en a spécialisé certains qui sont des archis. Et donc, la question... qu'on se pose avec ses étudiants en ce moment, notamment sur les littoraux, à l'école d'architecture de Paris-Malaquais, c'est de comprendre comment on peut avoir le moindre impact possible sur des systèmes en place. Alors ça commence par l'implantation. Comment est-ce qu'on implante un bâtiment? Quand on est dans une pente, ça n'a pas de sens de l'implanter de manière à ce qu'elle arrête tous les ruissellements naturels de la pluie. Ça a l'air idiot de le dire comme ça parce que ça semble naturel, mais si on regarde la plupart des architectures, elles vont pas dans le bon sens. C'est par exemple quand on est face au littoral de construire une architecture qui va profiter des vents pour rafraîchir l'intérieur de la ville, etc., etc. Et donc il y a toute une série de règles de bon sens en fait, d'observation. Et puis, quand on arrive à l'échelle du vivant, c'est de se dire, voilà, je m'installe ici, comment je peux faire pour garder les continuités écologiques, pour permettre aux oiseaux qui sont déjà en place de continuer à y habiter. Donc, c'est l'inverse d'une accessoirisation où on se dirait, tiens, je mets mon bâtiment n'importe comment, mais je vais accrocher 3 nichoirs pour oiseaux et 2 pour chauves-souris dessus. Ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que si ça se trouve, les chauves-souris, elles ne sont pas dans ce quartier-là et les oiseaux, ils ne viendront jamais dans le nichoir. Donc, il faut déjà voir ce qui est en place, comprendre le déjà là et puis après, voilà, articuler et faire des choix, des hiérarchies. Et quelquefois, c'est l'humain qui prend le pas parce qu'on a besoin à cet endroit-là d'avoir un refuge pour les humains. Et pas de bol, il y a aussi un refuge pour les oiseaux. Et on ne peut peut-être pas cohabiter à cet endroit-là. Mais par contre, à d'autres endroits, peut-être que les humains n'ont pas leur place. Et donc, on peut essayer de... Voilà. Voilà. Donc, chaque position est particulière et fait l'objet d'une réflexion comme ça... spécifique, on va dire.
Et c'est ce que tu disais avant dans ta conférence, c'est qu'en fait, il faut se dire que c'est pas les animaux qui sont venus en ville, mais en fait, on est chez eux.
On est chez eux. Ouais, on est chez eux. On est chez eux parce qu'on s'est de plus en plus étalé, et donc les villes se sont étalées en tentacules. Ils ont suivi les routes, et puis ça devient des arcs urbains. Puis ces arcs urbains, ils se touchent les uns les autres, et puis ça fait. Puis chaque ville est touchée. Et donc on a le grand Grenoble, le grand Marseille, le grand Paris, le grand machin, et le grand Tokyo, et la plus longue ville du monde. C'est 80% de la côte est du Japon, qui n'est qu'une seule grande ville, depuis plus bas qu'Osaka jusque plus haut que Tokyo. C'est impressionnant quand même de se rendre compte de ça. Quand on le voit, quand on éteint et qu'on voit la nuit depuis les satellites, on voit un arc de lumière continu sur l'ensemble de la... Voilà, ça c'est une grande ville.
Et pour en revenir un petit peu sur les adaptations des animaux à la ville, quels exemples les plus étonnants t'ont marqué? De ces adaptations.
Alors, il y en a un dont je n'ai pas parlé tout à l'heure qui me plaît beaucoup. Ce sont des hirondelles aux États-Unis, dans le Nevada. C'est un état où il y a des grandes routes et il y a des camions qui roulent très très vite. Bon, il y en a partout, mais là, il y a vraiment beaucoup de transport. Et c'est intéressant parce que les oiseaux, les hirondelles, ont en quelques générations des ailes qui se sont raccourcies. la même espèce, hein, les ailes qui se sont raccourcies parce que comme ça, elles peuvent faire des virages plus rapides et elles peuvent éviter le choc avec les camions quand ils arrivent. Ça, je trouve que c'est un exemple d'adaptation complètement fou. Un autre qui est connu parce qu'il est plus ancien et je trouve intéressant, c'est celui des phalènes du bouleau. Ce sont des papillons de nuit qui sont blancs avec des petites taches noires. Et en fait, il y en avait en Angleterre pendant la période de l'industrialisation. Et s'il s'appelle phalène du bouleau, c'est parce que les papillons, souvent, ils sont inféodés à une espèce végétale. Là, c'est le bouleau. Et le bouleau, c'est un arbre avec un tronc blanc, avec une écorce blanche, avec des petites taches. Et donc, la phalène du bouleau vient se poser dessus, se plaquer dessus. Et comme elle-même, elle est camouflée blanc comme les chasseurs alpins, on ne la voyait pas. Et avec l'industrialisation en Angleterre, nuages de suie, et donc les troncs des bouleaux sont devenus noirs petit à petit. Et en quelques générations, les phalènes du bouleau, celles qui n'ont pas été dévorées, en fait celles qui étaient dévorées, c'était celles qui restaient blanches, donc les oiseaux venaient les manger parce qu'elles les voyaient, et celles qui avaient le plus de taches noires ont résisté, et donc de plus en plus, elles se sont assombries, et elles sont devenues quasiment complètement noires. Et puis fin de l'industrialisation, la pluie lave les troncs des bouleaux, les bouleaux redeviennent blancs et les phalènes de bouleaux, en quelques générations, redeviennent blanches. Ça, c'est un truc fou, je trouve. C'est, voilà, par exemple.
Ouais, c'est épatant. Mais je pense qu'il est aussi épatant, c'est peut-être... Enfin, tu l'as mentionné avant de dire qu'il y a 15 000 coyotes dans Chicago, mais aussi ce qui m'a marqué comme chiffre pendant ta conférence avant, c'est 30 000 sangliers dans le centre de Berlin.
Dans ça, le cœur de Berlin.
Ouais. Dire, c'est pas...
Oui, oui. Et en fait, on a tout fait pour les inviter. C'est-à-dire que comme on a cherché à connecter les parcs les uns avec les autres pour justement que les espèces animales et végétales puissent survivre, c'est tout l'enjeu des Grenelles, les premiers Grenelles. On a commencé avec une trame verte et puis une trame bleue, puis on a rajouté une trame brune pour le sol et puis maintenant une trame noire avec l'éclairage. Mais évidemment, tous ces tentacules de trame font que ce sont des corridors et des autoroutes pour les chauves-souris. Forcément, il y a des bestioles qui habitent en dehors de la ville qui maintenant viennent rechercher à manger dans le cœur de ville, là où on arrose en plein été alors qu'on n'arrose pas à l'extérieur. L'exemple qui me fait marrer aussi, ce sont les golfs. Enfin, ça me fait marrer parce que je ne suis pas golfeur et que je ne suis pas propriétaire de golf probablement, mais ça m'amuse parce qu'on a tout fait pour que les golfs soient le plus intégré dans le paysage possible. Donc on a tout fait pour imiter le paysage qui était à l'extérieur, on y a planté des chênes, on a fait des collines machin, et puis forcément, donc il y a des glands qui sont super intéressants pour les sangliers, et chaque été, il y a des golfs qui sont ravagés par les sangliers, parce que là c'est arrosé, alors qu'à l'extérieur pas. Et alors il y a une histoire très cocasse comme ça, où les sangliers qui arrivent dans un golf, le propriétaire n'en peut plus, donc il dépense une folie, une fortune, c'est grand un golf, une fortune pour clôturer l'ensemble de son golf. En plus il faut enfoncer la clôture un mètre dans le profondeur de sol pour pas qu'il y passe en dessous, et la clôture vient d'être installée, centaines de milliers d'euros, et bings, le lendemain, les sangliers sont toujours dans le golf, donc ils disent, mais qu'est-ce que c'est, d'où ils sortent? Et en fait, ils ont posé des caméras de surveillance et le sanglier, il rentrait par le parking.
Voilà. Tout simplement.
Donc, ils sont plus malins. Voilà. Donc c'est intéressant parce que oui, on est chez eux et en même temps, ce serait intéressant de les comprendre pour que nous, on puisse évoluer. Parce qu'il y avait ça dans ta question, c'est la coévolution, comment la ville aussi peut évoluer par rapport à ces choses-là. Là, et c'est dans l'autre. Maintenant, c'est ça tout l'enjeu, c'est de se dire comment nous, on peut déjà changer zéro phyto, connecter les parcs entre eux, mais comprendre aussi ce qu'on met en place comme espèce végétale par rapport à ce qu'il y a comme espèce animale déjà présente, pour ne pas mettre n'importe quoi, anticiper le coup d'après, parce que changement climatique avec augmentation de température, îlot de chaleur urbain, etc. Donc il faut jouer avec ces trucs-là, besoin d'eau, besoin de fraîcheur. Enfin, tout ça, c'est autant de paramètres qui sont autant de règles du jeu nouvelles pour les villes.
C'est sûr. Et sur une autre anecdote, je pense qu'il plairait à beaucoup de Grenoblois, donc je vais te demander de la raconter sur les Kea en Nouvelle-Zélande.
Ah oui, les Kea, oui, c'est mes grands copains ça. Donc ça, ce sont des perroquets verts des montagnes qui habitent toujours en Nouvelle-Zélande. Ils ont failli ne plus y habiter parce qu'on a failli tous les tuer. La Nouvelle-Zélande, c'était une île qui était très forestière, qui longtemps n'a pas été habitée par des hommes, et donc s'est développée là toute une faune et une flore très particulière, très spécifique, endémique. Et quand les colons sont arrivés, ils ont déboisé une bonne partie du territoire et ils les ont remplacés passer par des pâturages. Et le Kea qui habitait là, ce perroquet, grand perroquet vert, était un grand cuisinier. Donc il pouvait cuisiner une soixantaine d'espèces végétales différentes, couper des fleurs dans la longueur, des racines dans la largeur, savoir quelle baie à quel moment de la saison, etc. Comment les partager avec un filet d'huile. Voilà. Donc enfin, il savait exactement comment préparer tout ça. Et ça lui prenait beaucoup de temps de faire son marché et puis de préparer à manger. Et quand on a déboisé les forêts, on a aussi arraché un de ses ingrédients favoris que nous on a appelé le mouton végétal parce que c'est un petit buisson, un truc un peu buissonnant, un peu gris, qui ressemble à un mouton. Et en fait, on l'a remplacé par des vrais moutons, nos moutons en pâture. Et donc le Kea, à un moment donné, il a tenté, il a mis son bec dans un vrai mouton pour voir ce que ça donnait. Et donc il a trouvé que c'était plutôt bon. Et ça veut dire que nous, on l'a transformé de végétarien, on l'a transformé en carnivore. Déjà, première métamorphose que nous, on lui a insufflé, on va dire. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. En tout cas, on l'a transformé. Et donc, ça n'a pas plu, évidemment, aux bergers. Donc, tout le monde chassait le Kea. Il a failli disparaître. Dans les années 60, on a tiré la sonnette d'alarme. En 70, interdiction de chasser le Kea. Il faut encore attendre 10 ans pour que ça se stabilise. Et puis, maintenant, il est protégé. Sauf que le Kea, c'est un animal, un oiseau hyper intelligent. Il a un QI remarquable. Et donc, il fait preuve de stratégie, d'anticipation, il travaille en groupe, il sait faire des probabilités. Et donc, il y a cette histoire extraordinaire où il y a des travaux sur une route publique de voies. Et le Kea, le soir, avait compris que les cônes de chantier bloquaient la rue, la partie qui était en travaux, pour permettre de rouler sur l'autre. Et donc, le soir, quand les ouvriers partaient, il venait à plusieurs, il venait à trois ou quatre, et il déplaçait les cônes de chantier sur la bande roulante. Ce qui fait que le lendemain matin, il y avait un encombrement, ils étaient au premier poste, et ils venaient faire le singe devant les voitures pour recevoir des chocolats, des friandises, parce que voilà. Donc ils avaient fait preuve d'anticipation sur tout un tas de trucs pour faire ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce Kea, eh bien, il est confronté à un demi-million de touristes de l'extrême, de sportifs de l'extrême qui viennent dans le sud de la Nouvelle-Zélande avec des équipements toujours nouveaux et toujours plus ingénieux chaque année. Et donc ce Kea, comme il s'ennuie, eh bien, il va apprendre à ouvrir la toile de tente, déclencher le sac à dos gonflable, tourner la molette du GPS, décrocher les lacets des chaussures montantes, etc. Et il va être confronté à plein de nouvelles technologies humaines. Et donc il va devenir tellement malin parce qu'il cherche à jouer, en fait, que ça pose aujourd'hui des problèmes dans les villes avoisinantes parce qu'il va rentrer dans les maisons, il ouvre la poignée de porte, il ouvre le frigo, il décapsule des trucs, il casse la télévision, il change les chaînes au milieu de la nuit, et donc il devient insupportable, il devient hyperactif. Et là, il est protégé, on ne peut pas le chasser. Donc la réaction aujourd'hui des scientifiques, c'est d'avoir inventé un Kea Gym. Donc c'est une espèce de salle de jeu pour Kea, une aire de jeu pour les gosses, là voilà, qu'on met à côté des stations-service pour permettre de continuer à avoir un contact, que les gens qui remplissent leur plein, fassent leur plein, regardent le Kea jouer. Et puis ça occupe le Kea, sauf qu'on sait que le Kea, au bout de quelques heures, il va s'ennuyer ou quelques semaines. Donc d'autres scientifiques doivent venir remplacer les jouets régulièrement pour qu'ils continuent. Voilà, c'est pas ça la solution, évidemment. La solution, c'est qu'on a déforesté. La solution, c'est de remettre suffisamment d'une diversité végétale pour réapprendre au Kea à faire son marché et lui réapprendre à manger correctement. Parce que comme il mange une barre céréale hyper protéinée des sportifs de l'extrême, il peut tenir 3 jours sans manger. Et donc, il s'ennuie pendant 3 jours. Donc, il devient hyperactif. Voilà. Donc, c'est plutôt le problème à la base qu'il faudrait travailler. C'est le réaménagement de cette biodiversité.
C'est assez lunaire de se dire que l'humain a créé des salles de sport pour des Kea Gym.
Ouais, ouais, ouais.
Ok.
Mais on l'a transformé de végétarien en carnivore déjà, et après on l'a transformé de cuisinier en gamin hyperactif et insupportable.
Ouais. Donc attention aux amis grenoblois s'ils vont bivouaquer en Nouvelle-Zélande. Et donc toi, tu as travaillé donc sur les villes et les animaux, leur lien entre eux, mais aussi finalement sur les espèces mal aimées, donc qui cristallisent un petit peu nos peurs. C'est le sujet de ton livre Peur bête. Et donc ça m'a aussi fait penser un petit peu aux espèces oubliées. Donc à ce propos, il y a une enquête Mediapart de Yves Siama qui est nommée le délit de faciès des sciences de la conservation. Donc, qui est centré sur la discrimination qui est faite dans les orientations de recherche qui porte sur certaines espèces. Donc je voulais te demander justement en quoi cette hiérarchisation un petit peu des espèces, elle affecte notre rapport au vivant à nous, les hommes.
Alors au moins à deux échelles, au moins à deux niveaux. La première, c'est qu'effectivement, comme tu le dis très bien, on ne reçoit pas toujours de subventions pour faire des études sur les bestioles dont on n'a pas trop envie de parler. Et un exemple, c'est les araignées. En fait, on connaît 55 000 espèces d'araignées aujourd'hui. On sait qu'il y en a beaucoup plus, alors que chaque jour, il y en a qui disparaissent. Mais on n'a pas toujours les fonds scientifiques pour envoyer des chercheurs pour non seulement les récupérer, mais en plus les décrire après. Parce que l'araignée fait peur, ou voilà, et c'est idiot parce que c'est un animal extraordinaire et qui pourrait potentiellement nous aider sur plein de sujets. Le rat est très longtemps resté le mal-aimé des urbains, et on s'est rendu compte il y a que quelques années qu'en fait on connaissait rien du tout sur le rat, qu'on était avec lui depuis l'origine des villes, parce que le rat est apparu dans les villes à partir du moment où on a inventé les villes, il était avec nous, et en fait on ne sait pas grand chose de la manière dont ils interagissent entre eux. On apprend plein de trucs là depuis une quinzaine d'années, c'est vraiment un boom sur le rat. Et le rat, il y a quelques années seulement, est entré dans le panthéon des panthéons, c'est-à-dire qu'il est rentré en animal naturalisé dans la grande galerie de l'évolution du Muséum de Paris. Avant, il n'y était pas, il n'avait pas son droit d'entrée. Donc, premier problème, c'est connaissance de ces animaux. Si on ne donne pas les budgets pour les apprendre, ou si on continue à véhiculer des images d'épinal, finalement, des images fausses, des légendes urbaines, etc., sur ces animaux, on va continuer à tomber de plus en plus dans cette ignorance, cet obscurantisme qui est en train d'envahir la planète et qui est assez effrayante. Parce que, par ailleurs, on a cette crise de biodiversité qui, elle, cavale, quoi. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est notre rapport à l'animal. Et la deuxième chose qui, moi, m'inquiète par rapport à cette hiérarchie, c'est que parce qu'on ne les connaît pas, parce qu'on n'a pas pu les étudier, ou parce qu'on n'a pas envie de les étudier, on va penser qu'il faut les éliminer parce qu'elles sont dangereuses pour nous. Et donc, on accélère consciemment ou inconsciemment cette crise de la biodiversité, soit parce qu'on les ignore, soit parce que on pense qu'elles sont dangereuses. Et donc le renard, par exemple, continue à être véhiculé, même s'il commence à avoir un halo positif, ça dépend où, continue à véhiculer toute une série d'informations fausses, et notamment on a toujours peur de la rage alors qu'on sait que depuis les années 80 on l'a quand même éradiqué. De temps en temps il y a un foyer qui ressort en Europe de l'Est ou autre, bing, on le traite et c'est fini. Mais le renard, en fait, il régule les populations de campagnols, et s'il n'était pas là, les campagnols ils pullulent. Et ça abîme les cultures, d'une part. Mais d'autre part, plus il y a de campagnols, plus il y a de possibilités de tiques aussi. Et les tiques, eux, véhiculent la maladie de Lyme, parce que, voilà, etc. Et donc, c'est un équilibre qui tient sur nos croyances. Et donc, c'est ça, il faut faire sauter ces croyances pour que la connaissance aille jusqu'aux enfants. Donc, tu parlais de Peur Bête, il y a aussi Le Renard du Père Lachaise, qui, en fait, est un bouquin à destination des gamins, des enfants, pour leur faire comprendre des réalités sur les animaux, même si c'est tourné sous la forme d'un conte assez voilà, poétique, mais c'est donner des infos très précises sur des animaux pour changer ce rapport qu'on pourrait avoir et qui mène à des armes de destruction massive. Les frelons, il faut tous les liquider, les requins, il faut tous les liquider, machin, alors qu'on provoque des vagues encore plus importantes.
Voilà. Mais c'était le livre que j'allais mentionner, justement. Voilà. Et pour finir, peut-être une dernière petite question, un petit peu anecdotique. Toi, c'est quoi ton espèce animale préférée?
Ah mince, eh ben, ça change chaque jour. Ça change chaque jour.
Parce au fil des découvertes.
Oui, oui, chaque fois, je me dis, oh non, mais c'est ça, ça, c'est génial. Et puis j'étudie un autre truc, oh non, c'est ça. C'est en fait, chaque fois que je fais une enquête sur un animal, ça m'ouvre des portes incroyables. Et donc, ça peut passer de la marmotte à la mouche. En plongeant sur des créatures des profondeurs, des abysses qui me fascinent, qui me dégoûtent peut-être dans leur forme ou dans leur machin, mais qui me fascinent tellement que ça devient voilà, la nouvelle espèce extraordinaire. Alors, ça c'est parce que j'ai une curiosité qui est celle d'un gamin, je crois, et insatiable. Mais après, peut-être l'animal avec lequel j'ai le plus d'affinité, je dirais, d'empathie, c'est le chien, parce que j'ai grandi avec... alors c'est un animal domestique, hein, c'est pas un sauvage. Mais parce que je pense que les chiens avec qui j'ai vécu m'ont appris à regarder le monde différemment. Et je pense que c'est les plus grandes leçons d'empathie que j'ai pu avoir, c'est à travers les yeux d'un chien, en fait. Voilà.
C'est magnifique, c'est des très beaux mots. Et oui, bah, merci beaucoup en tout cas pour ce moment. Et puis si jamais les auditeurs veulent revoir ta conférence, c'est sur la chaîne YouTube de la Maison des sciences humaines de Grenoble. Donc il me semble que ça s'appelle MSH Alpes. Et sinon, s'ils veulent voir aussi comment tu racontes les animaux, justement, ils peuvent... se procurer tous tes livres.
Oui, donc, et s'ils veulent, ils sont les bienvenus sur le compte Insta aussi.
Voilà.
Voilà, on a plein d'histoires.
Donc merci Nicolas Gilsoul, et puis bon retour à Paris.
Merci beaucoup.
Sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.